Vous avez eu le temps de faire la sieste ? Non ? Heureux les siesteurs. Voilà, ils seront éveillés. Voilà, je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire le journal. Non ? Ou alors de temps en temps, peut-être ? Et quand on lit le journal, eh bien, on a au moins pour habitude, eh bien, de lire le journal, mais pour lire les nouvelles fraîches. Alors, on va lire le journal cet après-midi. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que ce pasteur, qu'est-ce qu'il nous raconte? On va lire le journal. Alors, c'est un titre que j'avais retenu lorsque j'étais pasteur sur Roman. J'ai été fort étonné de voir ce qui avait été écrit. Alors, je ne sais pas si ça va vous étonner, mais on va voir ça. Ce journal, donc, date du mercredi 9 avril 2014. Donc, pour la fraîcheur, on passera un autre jour. Alors, vous m'excuserez pour la prononciation, parce que cette personne portait un nom arménien. Donc, enfin, ça finit par Yan, ça c'est sûr. Donc, voilà. Le choc, l'émotion, la nouvelle qui ne peut que renvoyer à sa propre fin. Hier, en ville, tout le monde ne parlait que de la découverte lundi du corps momifié d'une vieille dame morte, seul dans son appartement en 2008. Je vous rappelle que les nouvelles sont de 2014. Un simple prénom, une adresse, autant dire que toute la communauté arménienne, ainsi que le voisinage immédiat a rapidement fait le lien. Cette Marie découverte momifiée dans son appartement du 14 place, bon, voilà, on passe. C'était donc Marie Tufieshkian, une vieille dame un peu indigne que chacun s'accordait à décrire comme une originale et même un peu acariâtre, voire caractérielle. Oui, mais derrière ce tableau de Tati Daniel, à la sauce arménienne, se dessine une vie de drame et de peine, une vie de solitude et de labeur aussi. C'est d'une petite fille arménienne réfugiée en France qui a vu 11 personnes de sa famille mourir dans le bombardement du 15 août 44 à Valence. C'était une femme handicapée qui se déplaçait en boitant, armée d'une canne, toujours petite, armée d'une canne, toujours. Petit gabarit, élégamment vêtu, ancienne couturière qui faisait sourire et mettait en colère lorsque soudain elle invectivait ceux qu'elle avait offert à ceux à qui elle offrait un café un moment plus tôt. Et puis, il est écrit, Marie Tufieshkian, qui aurait dû fêter ses 89 ans cette année, a pu continuer à percevoir sa pension. A existé pour les impôts, la banque et autres organismes, sans que personne ou presque ne se rende compte de rien. Et puis je termine. Et soudain, poète, il écrit dans le souvenir, sans le savoir, une épitaphe sur le comptoir, en parlant de cette femme, elle est née sur la pointe des pieds, elle est morte, pareil. Voilà une mamie Daniel. Vous connaissez tous la mamie Daniel, un caractère infernal. Elle avait le sourire comme ça, et puis dans le dos, paf, elle envoyait des pics, elle faisait des choses qui étaient fort désagréables, et la famille essayait de se contenir par rapport à cette brave grand-mère, derrière son air tout à fait mamie, gentille, tout ça, elle était très, très... Voilà. Et cette grand-mère, donc, cette dame arménienne, a vécu des choses qui lui étaient difficiles. Alors bien sûr, ce que l'on a retenu sur elle, c'était son caractère qui était fort désagréable. Voilà, un caractère qui était infernal. Et certainement qu'à cause de son caractère, eh bien, elle s'est retrouvée seule. Elle s'est isolée. Elle s'est repliée sur elle-même. À cause de son caractère, certainement. Mais derrière ce caractère qui était impossible, il y avait sans doute certaines raisons que nous avons lues ensemble. Une femme qui, pendant le bombardement, a perdu 11 membres de sa famille. Alors pour nous, peut-être que ça peut paraître à sourire, pas d'avoir perdu 11 membres de sa famille, bien sûr, mais de rester focalisé sur des choses qui nous dépassent de plus de 70 ans en arrière, en disant, mais quand même, ça fait 70 ans passés, être en an encore comme ça. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, il fut un temps, je comptais en 10 ans. Il disait, il y a 10 ans, bon, il y a déjà longtemps. 10 ans, oh, ça fait déjà 10 ans. Après, je me suis surpris en train de parler en disant, ça fait 20 ans. 20 ans. Puis j'ai commencé à parler en trentaine. 30 ans. Et en quarantaine, je m'arrête là. Je suis bien parti pour continuer. Enfin, si Dieu est près de vie et si le Seigneur est parvenu avant. 40 ans. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, il y a des fois, on me dit, tu te rappelles de ce que tu as fait hier, ceci, cela. Des fois, je ne sais plus. Ma femme me dit, mais je te l'ai dit. Je dis, non, ce n'est pas possible, tu ne me l'as pas dit. Oui, je te l'ai dit. Il faudrait presque un témoin. Alors, je crois qu'elle me l'a dit, mais j'ai oublié. Par contre, il y a des choses qui nous restent marquées. Il y a des années, des années, des années en arrière. Des choses qui sont comme fraîches encore dans notre mémoire. Des choses qui nous ont interpellés et qui nous ont même parfois traumatisés. Et cette vieille femme, elle a été traumatisée par le départ de sa famille, 11 membres de sa famille. Il y a des choses qui nous marquent dans la vie, des choses qui peuvent nous traumatiser. Et cette femme qui était là, eh bien, vivait repliée sur elle-même. Et pourtant, pour eh bien, la pension, pour eh bien, les impôts, la banque, cette femme existait toujours. Pourquoi ? Parce que personne ne s'occupait d'elle. À cause de son caractère, elle en était responsable. C'est sa faute. Mais, il y avait des raisons derrière. Son handicap aussi. Il y a des gens qui vivent certaines choses et ils ont un trait de caractère très marqué et qui peuvent marquer les autres même, qui peuvent interpeller les autres. Et parfois, c'est intéressant de savoir pourquoi ils sont comme ça. Si c'est un fichu caractère parce qu'il a décidé d'être comme ça, c'est son problème. Il ne faut pas qu'il s'étonne si eh bien, il s'isole. Il en est responsable. Mais d'autres personnes vivent des choses tellement difficile, parce qu'ils n'ont jamais eu personne à qui parler. J'ai travaillé avec, vous le connaissez certainement, Jean Bosco Kayondekwe. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ses origines, c'est un Rwandais. Et notre point commun, lui et moi, c'est que je suis allé au Rwanda en 92, juste avant le génocide. J'y avais été envoyé non pas pour passer des vacances, mais par le ministre des armées, puisque j'étais militaire là-bas. Et on avait été envoyé pour la protection des ressortissants, juste avant le génocide. Et lorsque je suis rentré en France, bien des années après, lorsque je suis rentré dans le ministère, quand j'ai su que j'avais affaire à un Rwandais, ma première question, naïvement, c'était de quelle ethnie il était. Parce qu'au Rwanda, peut-être y en a-t-il encore d'autres, il y a les Hutus et les Tutsis. Et la France avait été envoyée pour protéger les Hutus. C'est tout à fait politique, on ne va pas rentrer là-dedans, ça ne nous regarde pas, et puis on n'est pas là pour ça. Et quand je suis arrivé, en sachant que j'allais travailler avec un Rwandais, alors c'est un pays merveilleux, le pays des mille collines, le pays des gorilles, enfin c'est fantastique, hein, le Rwanda. Et avant d'aller là-bas, je ne savais pas que ça existait, le Rwanda d'ailleurs. Vous connaissiez le Rwanda ? Mis à part le journal qui vous a informé que ça existait. C'est un tout petit pays entre l'Ouganda et le Burundi et anciennement Zaïre. Et lorsque j'ai commencé à l'interpeller pour savoir de quelle ethnie il était, pour parler un peu du pays, sur le coup, il n'a pas voulu me le dire. On a travaillé 3 ans ensemble et ce n'est que vers la fin qu'il m'a donné son ethnie. C'était un homme qui était marqué par son passé. À l'âge de 5 ans, il traversait la jungle pour eh bien, fuir les massacres puisque les trois quarts des membres de sa famille avaient été décimés par les rebelles. Les rebelles, ça dépend dans quel côté on se met. Mais pour lui, c'était les rebelles. Et voyez-vous, il y a un tas de personnes comme ça qui vivent des choses difficiles, qui sont marquées et ne vous en parlent pas. Ils s'isolent. La parole de Dieu nous parle d'un homme qui a vécu quelque chose qui était difficile. Bien sûr qu'il ne dit pas que c'était difficile, mais par rapport à la manière dont il parle de lui-même, on s'aperçoit que c'était quelque chose de très difficile, de douloureux. C'est dans le livre de Samuel, chapitre 2 Samuel, chapitre 9. Verset 1er, 2 Samuel 9, verset 1er. Voici ce qui est écrit. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « Y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je lui juse envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ?» J'ai dû louper une phrase, non ? Non ? C'est bon, j'y suis alors. Le roi lui dit, « Où est-il ? » Et Tsiba répondit au roi, « Et il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi, David, l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David lui dit, « Mephibosheth. » Il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien, à cause de Jonathan ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül, donc son grand-père, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Amen. Voici un garçon qui a très 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 mal commencé dans la vie. Très 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 mal. Il a perdu son grand-père, et quel grand-père ! Le premier roi d'Israël. C'était un homme qui était connu dans sa nation, évidemment, mais aussi eh bien, autour. Toutes les nations qui entouraient eh bien, Israël connaissaient le roi Saül. Et le roi Saül est mort d'une manière tout à fait horrible, puisque cet homme eh bien, n'est pas mort sur le champ de bataille. Enfin oui, il est mort sur le champ de bataille, mais pas par les ennemis de Saül. Il s'est suicidé. Il s'est jeté sur son épée parce qu'il ne voulait pas tomber entre les mains de l'ennemi. Et vous savez, quand on nous parle de suicide, c'est quelque chose d'horrible. Quand les gens décèdent, c'est déjà difficile à vivre. Mais il y a des morts qui sont violentes, comme eh bien, le suicide, un accident de la route, des moments où on ne s'y attend pas, on se dit « mais ce n'est pas possible ». Et ce gamin a perdu son grand-père, ses oncles et son père. De mémoire, tout ça, c'est le même jour, sur le champ de bataille. Et puis, voilà que ce petit gamin, étant dans les bras de la nourrice fait tomber le gosse et les deux pieds craquent. Perclus des pieds. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais enfin, tenez-moi informé à la sortie, si ça existe, l'école de la méchanceté. Mais à l'école, vous savez, on ne se fait pas de cadeaux. Hein. Et ça n'existe pas, à mon sens, l'école de la méchanceté. Mais à l'école, ah, l'handicapé, il suffit que vous soyez roux, ah, poil de carotte. Il suffit que vous soyez gamin, vous ayez des lunettes, serpent à lunettes. Il suffit que vous soyez un maigrichon, on va dire, alors l'asperge. Ou un petit rondouillard, on va dire, alors le gros. C'est comme ça que ça se passe dans les écoles. Il suffit que vous ayez une différence, eh bien, on vous catalogue, on vous met dans une boîte et on vous y enferme. On vous met une étiquette. Alors imaginez un peu ce pauvre gamin qui, lui, eh bien, était handicapé. On devait bien rigoler de lui. Et ce qui me pousse à penser que ce gamin, qui à un moment donné a grandi, évidemment, comme tout à chacun, s'est marié, a eu un enfant. Et ce qui est surprenant dans cette histoire, c'est que David et Jonathan avaient une telle affection, amitié entre eux, que même David ne savait même pas que Mephibosheth existait. C'est incroyable. Et David se pose la question, voilà, une question tout à fait, pas banale, mais enfin une question qui suscite de l'intérêt pour David. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore de... Il avait un doute. Ah oui, il y en a encore un. Comment il s'appelle? Mori? Non, c'est pas moi. Michel. Non. Ah, Mephibosheth. Avec un nom comme ça, c'est sûr que... Mephibosheth, le fils de Jonathan. Alors, David fait venir ce Mephibosheth. Et ce qui nous pousse à penser que Mephibosheth a mal vécu son enfance et que justement, David ne connaissait pas ce Mephibosheth. Un garçon qui vivait chez quelqu'un d'autre. Un garçon qui devait certainement s'isoler. Un garçon qui faisait sa vie, mais chut, fais pas de bruit. Un peu comme cette mamie, comment on l'appelait tout à l'heure ? Tati Daniel, voilà. Comme la Tati Daniel. Une personne qui reste reclue dans son coin. Parce qu'on a tellement peur. Puis vous savez qu'à cette époque, lorsque un roi prenait la place à un autre roi, on faisait en sorte d'éliminer tous ceux qui étaient en relation avec le roi, parce qu'il suffit. Il aurait suffi qu'il y en ait un qui se monte la tête en disant « Je vais faire encore un, je vais faire un coup d'État, comme ça on supprimait tout le monde. » Donc Mephibosheth, lui, faisait le canard. Et ce Mephibosheth va arriver devant le roi David qui... Le roi David est le type de Christ. David, voyant et sent que Mephibosheth n'est pas tranquille, que Mephibosheth vit mal cette rencontre, cette situation, parce que Mephibosheth, le roi l'avait fait venir, donc il était hors de question de dire « Hop, 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 non, non, moi je ne vais pas. » Ce n'était pas un ado de l'époque, hein, de cette époque-là maintenant. « Oh, tu rigoles ou quoi? Je ne veux pas y aller, quoi, le roi. » Non. Mephibosheth, le roi te convoque. Qu'est-ce qui va me tomber dessus? Qu'est-ce qu'on va me dire? À quelle sauce je vais te manger? Comment va-t-il me parler? Qu'est-ce qu'il va me dire? Maintenant qu'il sait que j'existe, peut-être qu'il va essayer de faire en sorte de me supprimer. C'est le roi. Qui lui demandera des comptes? Mis à part Dieu. Et David ressent que ce garçon, il est mal dans sa peau. Ce garçon, eh bien, arrive, et il répondit, David lui dit, « Mephibosheth, et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien. » Est-ce que vous avez peur de Dieu? Ayez la crainte de Dieu, oui, je vous invite à la conserver. Ou si vous ne l'avez pas, faites vite pour trouver cette crainte de Dieu. Moi, mes enfants, ils n'ont absolument pas peur de moi. Pas du tout. Mais alors, par contre, ils me craignent. Si je dis, qu'est-ce que tu fais là? Alors, ils savent qu'il y a un moment, ils pourront rire. Et puis, à un moment donné, quand... Voilà, ils comprennent. Surtout le petit dernier, qui est... Voilà. Quand je tape du poing sur la table, c'est stop, on arrête. On entendrait les mouches voler. Bon, ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ça arrive. Et ici, ce Mephibosheth, il est dans la peur, dans la crainte. Et David lui dit, ne crains pas, je veux te faire du bien. Et Dieu veut vous faire du bien. Il arrive que parfois, des gens hésitent de s'approcher de Dieu parce qu'ils en ont peur de Dieu. Parce que tout gamin, on leur a appris que Dieu, c'était un père fouettard. Ou quand il pleut, c'est le petit Jésus qui pleure. Vous avez jamais entendu ça? Des trucs complètement stupides. Ah, t'as fait ça, Dieu va te punir. Il y a même des chrétiens qui parfois disent comme ça. Ah non, ça je fais pas. Ah ça je fais pas. La Bible me l'interdit. Non, j'ai pas le droit de faire ça. Non, j'ai pas le droit de m'enivrer. J'ai pas le droit de tromper ma femme. J'ai pas le droit de tromper mon mari. J'ai pas le droit de voler. Ils ont rien compris. Celui qui dit... pense comme ça, qui dit que, tout simplement « j'ai pas le droit de faire ceci, j'ai pas le droit de faire ça », ils n'ont rien compris. Parce que le jour où Mais le perdront. La peur de Dieu, à la moindre occasion, ce qu'ils s'interdisent aujourd'hui, ils l'accepteront demain. Or, ne pas tomber dans l'ivresse, ne pas tromper son mari, ne pas tromper sa femme, c'est pas que je me l'interdis, je fais le choix de ne pas le faire. C'est une interdiction pour moi, mais c'est pas Dieu me dit, ne fais pas, je t'interdis de faire ça. Je ne veux pas vivre dans le péché. Parce que le jour où les gens pensent comme ça en se disant, mais non, j'ai pas le droit, le jour qu'ils sont fragilisés, alors ils se permettent de faire certaines choses. Et mes amis, ici, David va lui dire, je veux te faire du bien et te rendre tout ce que tu as perdu. Et qui sait combien le diable a pu voler certaines choses, la paix du cœur, la joie, le bonheur, l'espérance. Je ne vais pas vous poser la question, mais s'il n'y a que des chrétiens ici, et que je vous pose la question, est-ce que vous êtes sûr d'être sauvés? J'espère, frère. Si je suis gentil avec Dieu, j'espère. Ah moi, frère, je ne demande simplement qu'à strapontin. Et mon œil, hein. Les bus et les cars, maintenant, il n'y a plus de strapontin. Ceux qui ont connu les strapontins, je vais vous dire, passez mon éternité assis sur un strapontin, merci. Hein. Parce qu'il ne faut pas se louper. Hein. On baisse l'assise et on met le dossier. Et alors, attention, il faut calculer, il faut être assez rapide. Hop, hop, ça y est, par terre. Parce que le dossier, il est parti en amont. Voilà. Alors, une place assise sur un strapontin, il n'y a pas de strapontin au ciel. Alors, je suis ou pas sauvé. Et parfois, l'adversaire de notre âme, il vient picorer ce que Dieu nous a donné. Et là encore, nous en sommes responsables. C'est à nous d'entretenir ce que Dieu nous a donné. C'est à nous d'entretenir. Et mes frères et sœurs, mes chers amis, comme cette femme, Tati Daniel ou ce Méphibosheth, ce sont des gens qui ont un lourd passé et qui, ce passé, les tractent. Ils suivent, ils traînent des casseroles. Et ce Méphibosheth va s'entendre dire « Tous les jours, tu mangeras à la table, à ma table et à Jérusalem. » Tous les jours. Jérusalem veut dire fondation de paix. Cette paix, il ne l'avait plus, cette paix. Mais à cause du type de Christ, ce David, qui est le type de Christ, va lui accorder de vivre tous les jours en fondation de paix. Fondation de paix, c'est autre chose que la paix simplement. C'est mes fondations, ma vie est fondée sur la paix de Christ. Ce n'est pas une paix de temps en temps, voilà. Vous savez, il y a des gens qui cherchent la paix, hein, à travers le hashish, à travers une bouteille d'alcool. Oh, j'ai la paix, je vais travailler. Ouh. Et puis une fois que c'est fini, ça y est, ils retombent les deux pieds sur terre, ils se rendent compte que la paix, c'était vraiment illusoire, c'était du superficiel. Mais Dieu veut nous donner les fondations de la paix en Christ. Et puis, tous les jours, tu mangeras à ma table. C'était extraordinaire. Et Jésus nous invite tous les jours à manger à sa table. Tous les jours, nous avons un menu qui est différent de la veille. Et cet homme qui a entendu ces choses va avoir un mot pour lui-même. Qu'est-ce ton serviteur ? Qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort ? Tel que moi. Vous savez, ça se dit beaucoup moins maintenant, je crois. Mais quand on dit « t'es un chien », c'est rien de gratifiant. Sale chien ! C'est vraiment très sale. Mais en plus, chien mort, c'est vraiment inutile. Et cet homme, il avait un regard sur lui-même. « Je suis un chien mort. » Je suis inutile, je ne sers à rien. Combien d'hommes et de femmes se sentent inutiles? Et pourtant, ils ont réussi certaines choses dans leur vie. Cet homme avait une épouse. Cet homme avait de mémoire un enfant, j'ai perdu son nom. Il avait une famille standard, dirons-nous. Et puis, il avait un passé. Oh, hey, oh. Et t'as vu un peu le bonhomme? Mon grand-père, c'était le roi d'Israël. Bon, bien sûr, il faisait le pour et le contre, ok. Mais enfin, oh. Et puis, mon père, il aurait pu être le roi, c'était un prince, en quelque sorte. Il a laissé la place à David. Mais quand même, j'ai une sacrée carte de visite. Et pourtant, cet homme, le seul regard qu'il avait sur lui, c'était quelque chose de méprisant. Vous savez, on peut dire à quelqu'un chien mort, surtout quand on sait d'où ça vient, on lui parle toujours, c'est de l'eau sur la plume du canard, ça glisse. Mais quand on se trouve comme étant un chien mort, or Dieu veut changer cette image que vous avez de vous-même. N'aie pas peur. Je veux te faire du bien. Je veux te rendre tout ce qui t'appartient, ou plutôt tout ce que tu as laissé tomber, je veux te le rendre. Ta paix, ta joie, l'espérance du salut. Je te rends tout ce que tu as laissé tomber. Je veux te rendre ton honneur. Je veux te rendre ta dignité. On t'a fait perdre ta dignité un jour. Ce n'était pas ce que tu es aujourd'hui. Avant, tu étais quelqu'un de correct. Tu avais une belle, une bonne image de toi dans l'équilibre. Tu ne te prenais pas la tête, tu n'étais pas un orgueilleux. Non, tu étais quelqu'un, tu te sentais bien dans ta peau. Et depuis, où tu as été méprisé, où on t'a malmené, tu as perdu ta propre dignité. Et Dieu veut te rendre ta dignité dans l'équilibre. Cet homme, je termine en disant que nous avions été invités un jour de noces, un jour de repas, à Jérusalem. Personne n'aurait remarqué Méphibosheth. Méphibosheth, assis avec tous les autres convives, eh bien, on se serait aperçu de... Imaginez que vous êtes là et vous regardez, vous cherchez... Oh, David, ah oui ! Salut ! Oh, pardon. Mon Seigneur. Eh oui, nous, on le connaît comme ça. Alors. Ah ! Alors, lui, c'est qui, hein ? Alors lui, c'est... Ah, ça doit être lui. Ah non, il n'a pas la tête. Non, c'est lui. Vous savez, des fois, on cherche les gens. Hein. Et vous savez que vous l'auriez reconnu, ce Méphibosheth, pas parce qu'il portait un badge, mais il est écrit à la fin de ce chapitre 9. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Et ça se termine ainsi. Il était boiteux des deux pieds. Vous ne pourrez pas rattraper votre passé. Il y a des choses que vous ne pourrez jamais rattraper. Bien sûr, aujourd'hui, si on vous disait « Il existe une machine à remonter le temps », vous seriez le premier à acheter cette machine. En disant « Ouais, si j'avais su, il y a des choses que je n'aurais pas faites, alors vite, je vais l'acheter pour remonter le temps, pour éviter. » Sauf que ça n'existe pas. Une femme, une jeune fille qui a rencontré l'amour fou et ils sont tombés dans le péché, ils ont eu une relation avant même le mariage. Celle-ci s'est retrouvée enceinte et puis monsieur l'ayant entendu dire « Je suis enceinte, monsieur, walou. » Plus de nouvelles. Ou alors une femme qui, on lui a mis la peur. Si tu ne te fais pas avorter, tu quittes la maison, on te renie. Elle était jeune à l'époque. Elle a pris de l'âge depuis. Et ça marque toujours quelqu'un. J'ai eu l'occasion de rencontrer une grand-mère qui un jour m'avait dit « Dans ma vie, j'ai 3 A ». 3 A. Premier A, elle était âgée, hein ? Adultère. Deuxième A, je me souviens pas. Et sur les 3 A, je me souviens d'un autre A. Avortement. Colette, 80 ans maintenant, à ce jour environ, je crois 80 ans. Ça va, il y a de l'eau qui est passée sous le pont. Ça va. Mais Allez dire ça à quelqu'un qui a vécu ce genre de choses. Vous croyez que cette personne va vous dire « Oh oui, oh bah après tout, il avait une masse informe. » C'est pas vrai. Les médecins qui vous diront « Mais non, faites-vous avorter. Il y a des risques à votre âge que l'enfant ait le syndrome 21. » N'ayez pas peur. On a prié pour une maman, ou plutôt pour le bébé, qui avait, disait-on, eh bien, ce syndrome, ou plutôt, cet enfant, il est né normal. Il n'y a pas d'handicap chez cet enfant. Oui, mais vous êtes gentil, vous nous parlez de ça, mais moi, je l'ai vécu. Et ça fait 10 ans, 15, 20, 30, 40, 50. Ou peut-être que c'est même monsieur qui, un jour, sa femme ne voulait pas et monsieur a dit « Tu te fais avorter, sinon je te quitte. » On peut se retrouver avec un gamin, là, à notre âge. Et du coup, vous vivez mal les choses. Et dans votre cœur, il y a cette culpabilité profonde qui, comme une charrue, passe dans le champ, laboure votre cœur. À chaque fois que vous faites une comparaison, vous voyez un jeune et vous dites « Ce jeune... » Il serait à l'âge de mon enfant aujourd'hui. Quelle déchirure dans le cœur. Et personne ne peut vous comprendre. Personne ne peut saisir. Même votre mari, lui, vit sa douleur à sa manière parce qu'il est culpabilisé au fond de lui-même. Mais lui-même ne peut pas vivre ce que vous vivez. Il n'a pas pu porter l'enfant que vous avez porté, qui n'est plus aujourd'hui et que vous n'avez pas en vue. Mais quelqu'un sait et connaît votre douleur. Mes amis, il s'appelle Jésus-Christ. Ce Dieu est unique. Pourquoi est-il unique ? Parce que tout simplement, il est vivant. Gloire à Dieu ! Combien d'hommes et de femmes ont été guéris dans leur cœur, dans leur conscience ? Combien d'hommes et de femmes, eh bien, n'ont pas pu faire marche arrière parce que voilà, la machine était lancée. Et on s'est dit, mais si j'avais su ! Et c'est trop tard. Et vous êtes ce Méphibosheth à la fin de ce repas, à la fin de ce chapitre. Il était boiteux des deux pieds. Alors cet homme a été au bénéfice de la grâce. Il a été remarqué par le roi David qui s'est intéressé à lui. Il l'a cherché. Y a-t-il encore quelqu'un ? Vous savez ce que Dieu dira à Adam et à Ève ? Lorsqu'il avait donné des commandements, vous ne toucherez pas à ce fruit. Eh bien, Dieu, au lieu de dire « Qu'est-ce que tu as fait encore ?» Ou plutôt, ça commence bien plutôt. S'il n'avait encore rien fait de mal. Non ? C'est ce que Dieu a fait. La première question que Dieu a posée à Adam et Ève. Où es-tu ? Au lieu de sortir la chicotte, le fouet, où il pleut, ah, c'est le petit Jésus qui pleure, tu t'es mal conduit. Ça n'a rien à voir avec ces choses. Notre Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu qui console, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui restaure les cœurs les plus brisés. Au British Museum, je ne sais pas si ça y est encore, il y avait un vase d'une valeur exceptionnelle. D'une valeur, voilà, qu'on ne pouvait nommer tellement que... Et un jour, un fada est arrivé, paf, il a fait tomber le vase. Il arrive, ça arrive, hein, des fois. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire avec un truc pareil ? Bon, allez, Martine ! Amène la balayette. Là, on a perdu une valeur inestimable. Dépêche-toi, ramène l'aspirateur, ça ira mieux, parce qu'il y en a de partout. Mais, Martine, c'est une invention, bien sûr, vous avez compris. N'a pas eu le temps de venir. Il y avait un homme ici qui savait la valeur inestimable de ce vase. Alors, un homme ou une femme, peu importe. Récupérer ces morceaux les uns après les autres. Et petit à petit, cette personne a reconstitué ce vase. Avec minutie, presque d'une manière chirurgicale, pièce après pièce, à un tel point que ce vase était... Lorsque les gens, on leur disait « ce vase a été brisé », il a fallu qu'on raconte l'histoire de ce vase pour que les gens puissent dire « C'est vrai, ce vase a été brisé !» Les gens avaient à peine à le croire. Pourquoi ? Parce que quelqu'un avait un autre regard sur ce vase que Maurice et Martine, qui étaient prêts à tout mettre à la poubelle. Cette personne a eu ce regard, même si ce vase était en 1000 morceaux, cette personne a aimé ce vase, parce qu'il savait la valeur de ce vase. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu ne vous aime pas comme votre mari peut vous aimer. Ou, mes sœurs, ou Dieu ne vous aime pas comme votre femme peut vous aimer, mon frère. Et les enfants que nous sommes, nos parents ne nous ont jamais aimés comme Dieu peut nous aimer. Personne ne peut nous aimer comme Dieu nous a aimés. Et même moi-même, je ne m'aime même pas comme Dieu m'aime. Ça vous arrive d'être toujours content de vous ? Ah, dis donc, je suis bien. Même un beau gosse, hein ? Et puis ma femme, elle passe derrière, elle me dit, non, depuis que tu as passé la quarantaine, tu as pris des rides, hein ? Alors, ne vous en faites pas, je ne me dis pas que je suis un beau gosse, hein, ça n'a rien à voir, je faisais du cinéma. Voilà. Mais parfois on est content de soi, on dit « Ah quand même, j'ai réussi ceci, j'ai réussi cela ». Et des fois on dit « Mais c'est pas possible, mais tu t'es loupé, t'es vraiment un ringard, t'es vraiment un... » Jamais Dieu vous dira « Vous êtes un ringard ». Dieu vous aime jour après jour, d'une manière authentique. Même si vous avez péché, Dieu vous aime quand même. Même si vous avez fait quelque chose de « Waouh !» Dieu vous aime quand même. Il ne va pas plus vous aimer pour ça. Il vous aime parce qu'il vous a toujours aimé. Mephibosheth, y en a-t-il un parmi nous ? Ou une Tati Daniel ? Y en a-t-il une parmi nous ? Quelqu'un qui vit reclus, qui a un fichu caractère, parce que derrière personne ne sait, mais un fichu passé. Alors faites comme ce Mephibosheth. Acceptez d'entendre dire, Jésus vous dire, ne crains pas, je veux te faire du bien. Je vais te rendre ce que tu as perdu. Viens à la fondation de paix tous les jours, reçois ma paix. Fonde pas ta vie sur des choses qui sont banales, mais viens fonder ta vie sur le rocher des siècles. Ce rocher qui ne bouge jamais, qui ne changera jamais. Moi, il m'arrive souvent de trembler. Mais j'ai semé ma vie, enraciné ma vie sur le rocher qui, lui, ne tremble jamais. Alors moi, je tremble, mais lui ne tremble pas. Alors c'est lui qui me rassure. Et puis, laissez votre passé de côté. Ça fait partie de votre histoire. Ne cherchez pas à recoller les morceaux, c'est cassé. Mais dites simplement à Jésus, je te demande pardon. Aie pitié de moi. Si vous avez des choses que vous avez, par exemple, volées ou quoi que ce soit, c'est toujours chez vous. Rendez-le à son propriétaire. Tant que c'est possible de réparer, réparez. Mais il y a des choses qui sont impossibles à réparer. Ayez foi en Dieu. Croyez que Dieu est celui qui console, guérit. Et ce petit qui est parti, vous savez où il est ? Il est au Seigneur. Et ce petit, vous le reverrez. Si vous restez accroché à Jésus, on peut prier. Gloire à Dieu. Je voudrais prier pour ces Mephibosheth ou ces Tati Daniel, qui ont un caractère de cochon, mais qui ont un passé tellement douloureux, qui fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Un Mephibosheth, qu'est-ce qu'un chien mort tel que moi ? Ou cette femme arménienne, dont personne ne s'intéressait à un tel point que son corps était momifié. Y a-t-il un Mephibosheth cet après-midi ? Et Jésus, je voudrais retrouver cette paix dans mon cœur. Je voudrais retrouver cette relation que j'ai perdue. Tu vois mon état, tu vois combien je suis cassé, combien je suis comme ce Mephibosheth, handicapé, non pas des deux pieds, mais dans mon cœur, dans ma tête.
Je voudrais tellement que tu puisses me renouveler, me régénérer. Je vous invite à lever votre main, vraiment.